Je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et à partir du verset 21. Ça peut paraître curieux que je commence ce passage à partir du verset 21 parce qu'il s'agit de la parabole du fils prodigue dont on ne va pas lire la première partie. Je pense qu'elle est connue de tout le monde et ce n'est pas le sujet du message. Donc Luc 15 à partir du verset 21. C'est juste après le retour du fils prodigue. Et le fils dit à son père, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il le retrouvait. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Sans avoir jamais transgressé tes ordres, et tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » On a beaucoup commenté ce passage et principalement les trois principaux personnages de cette parabole. Le fils prodigue, bien entendu, hein, l'image de l'homme pécheur qui est repentant. Le père, évidemment, Dieu miséricordieux, avec un débordant d'un amour parfait pour ses enfants. Et enfin, le fils aîné, dont il est question plus particulièrement dans cette seconde partie de la parabole, qui dépeint celui qui ne saisit peut-être pas toute la portée de cet amour pour lui-même et se prévaut, sinon de son travail, du moins de son ancienneté. On a fait aussi des commentaires sur les prostituées dont on parle un petit peu plus tôt dans ce passage. La partie que nous avons lue sur les habitants du pays que le fils ruiné pour lequel le fils ruiné s'est mis au service. Et même les pourceaux ont fait l'objet de commentaires, les pourceaux dont il avait la garde lorsqu'il a été ruiné et qu'il a dû trouver du travail, tout ça, ça a inspiré de nombreux auteurs. Mais là-dedans, il y a une personne qu'on remarque à peine, le serviteur que le fils aîné rencontre à son retour à la maison. Et c'est donc de cette personne aujourd'hui que nous allons un peu parler, tout au moins au début de ce message. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais quand je peux entendre un verset, un passage, un certain nombre de fois, voilà, bon, il n'y a rien de spécial qui vous vient à l'esprit. Puis un beau jour, paf, un détail vous saute aux yeux. Et c'est ce qui m'est arrivé pour ce passage-là. Un jour, alors qu'un prédicateur était en train de commenter la parabole du fils prodigue, il est arrivé au verset 27, et au verset 27, on nous dit que le serviteur dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il n'a rien compris. » Selon ce serviteur, la joie du père et la fête qu'il donne n'aurait d'autre cause que celle de retrouver son fils en bonne santé. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est toute la vérité? Est-ce que c'est, pour être plus précis, l'essentiel de la vérité? Et la vérité, dans sa globalité, elle est très clairement exprimée par le Père, lui-même au verset 24. Et ce verset 24 commence par le mot « car ». Il donne ses ordres à ses serviteurs. « Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu et il est retrouvé. Là, voilà la vérité. Toute cette joie qui déborde du Père est là. Aucune ambiguïté. Il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Il n'y est pas question de bonne santé. Alors on peut raisonnablement penser, bien sûr, que le Père n'est pas indifférent à la bonne santé du Fils, que ça ne le laisse pas de marbre. Mais ce n'est pas là la principale cause de sa joie. Ce qu'il dit ici, c'est que son Fils a retrouvé sa place dans la famille, il est redevenu le Fils de la maison, il a retrouvé sa dignité de fils, héritier et futur co-administrateur de ses propres biens. Voilà ce qui fait la joie profonde du Père. Alors revenons donc à cette parole que je qualifierais de malheureuse de ce serviteur. Ton père a tué le veau gras parce qu'il a trouvé ton frère en bonne santé. Alors on va un petit peu plus loin. Quelle part cette parole peut-elle avoir dans le déclenchement de la colère du fils aîné? On peut se poser la question. Hein, si le père s'était pas enquis de sa santé depuis un certain temps déjà, si déjà un petit coup de blues rôdait au fond de son âme, si un peu de lassitude s'est installée dans la routine quotidienne, si déjà un peu d'amertume avait envahi son cœur, et peut-être précisément envers son frère cadet, alors il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Bien sûr, ça n'excuse nullement son comportement, ni sa jalousie, mais peut-être ça peut donner une explication. Ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Quelle légèreté dans cette parole. Elle projette une image du père qui est complètement déformée. Ouf, mon fils n'est pas malade. Il n'a pas contracté le sida avec les prostituées. Il n'a aucun signe de carence alimentaire. Il n'a pas attrapé une bronchopneumonie en gardant les cochons sous la pluie. Bref, tout roule, tout est bien qui finit bien, tout baigne. Les sentiments du père sont réduits à un simple soulagement. Pourquoi le serviteur a-t-il parlé aussi légèrement? Pourquoi? N'aurait-il pas entendu les ordres du Père? Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et revêtez-le. Il reste néanmoins possible que tous les serviteurs n'étaient pas là et que lui, à ce moment-là, n'était pas là. Et que les informations qu'il avait étaient de seconde main. On peut envisager une multitude d'autres hypothèses qui l'ont amené à dire ça en ces termes. Il est débordé. Vous imaginez, l'instant d'avant, il était là, tranquille, une journée qui s'annonce paisible, comme d'habitude, le train-train quotidien, calme, quoi, comme ça se passe 90% du temps. Et puis là, grand coup d'accélérateur, le fils revient, le père donne des ordres, c'est l'effervescence dans toute la maisonnée. Et puis lui, eh ben, il est à sa tâche, il a un certain nombre de choses à faire, et voilà, quand on l'interpelle, attendez, plus tard, vite, il lance une petite phrase sibylline parce qu'il est tout à sa tâche. Ça, c'est une hypothèse. Autre hypothèse, bien qu'ayant entendu les paroles du Père, il n'a pas été touché lui-même par son amour pour vraiment le retranscrire en paroles. Autre hypothèse, il s'en fiche. Il est là pour gagner sa vie, hein, il gagne sa croûte en faisant ce qu'on lui demande. On lui demande de préparer le veau gras, il prépare le veau gras, mais il n'est pas là pour servir de porte-parole aux membres de l'assemblée, aux membres de la famille de ses maîtres. Autre hypothèse, il est timide et n'a pas la parole facile. On continue dans les possibilités, il est manipulateur. Tiens, ça serait marrant de susciter une petite querelle en famille, on s'amuserait bien, aux dépens de ces gens-là. Autre possibilité, il a un compte à régler avec le fils aîné. Et là, il tente de se venger par père interposé. J'arrête ici la liste. Vous voyez qu'on pourrait la prolonger à l'infini. Et on peut aller des excuses bienveillantes aux accusations les plus perfides. Ironie de la chose, moi qui vous parle, je pourrais à mon tour vous faire passer cet homme, ce serviteur comme un instigateur de querelles, un imbécile qui ne comprend rien à rien, ou quelqu'un qui parle à la légère. Et à votre tour, vous pourriez vous irriter contre lui et en faire le véritable responsable de la colère du fils aîné. Bien heureusement, ce personnage n'a jamais existé. N'oublions pas que c'est une parabole. Et c'est un peu ce qui me permet de lui prêter de multiples personnalités sans s'attenter à son image, puisqu'il ne s'agit pas d'une personne ayant vécu. Cependant, les propos rapportés à la légère, tronqués, insidieux, orientés, existent dans la vie de tous les jours. La communication, quel exercice difficile. On parle beaucoup de communication. Notre siècle est un champion de la communication. Il a développé une multitude de moyens et a étendu au niveau mondial les possibilités de communiquer les uns avec les autres. Mais il n'a pas résolu les problèmes de communication. Toujours pas. Ça, c'est un problème qui reste entier. Bien au contraire, parce que si les informations voyagent à la vitesse de la lumière à l'autre bout du monde, la désinformation aussi et la contre-information. Il est très difficile pour l'homme moderne de démêler le vrai du faux, de discerner le bien et le mal, notion qui, soit dit en passant, devient progressivement obsolète dans un monde multiculturel. On va quitter les paraboles pour entrer dans l'histoire. L'histoire avec un grand H, c'est-à-dire des choses qui se sont réellement passées. On va aller dans les Nombres, au chapitre 13. Nombres, chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Ce seront tous des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après les ordres de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms pour la tribu de Ruben. Alors on va passer à aller un petit peu plus loin. Ils sont tous nommés, bien sûr, mais chaque tribu est représentée. Et on arrive au verset 16. « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse dit à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi, vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays, car c'était le temps des premiers raisins. » Ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Et ils montèrent par le midi, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shéchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec des grappes de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès-Barnéa dans le désert de Paran, et ils firent leur rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du pays du Midi. Les Hétiens, les Jébuséens. Les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Nous n'allons pas commenter ici le mauvais choix d'Israël, mais plutôt étudier comment les choses se déroulent. Tout d'abord, 12 hommes sont envoyés en avant-garde en Canaan pour leur donner un avant-goût du pays à conquérir. Et Moïse leur fait un petit briefing avant de partir et leur donne ses recommandations. Et moi, je me demande si les problèmes ne commencent pas là déjà avec les paroles de Moïse, avec ses paroles. Car au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Message clair, concis. Moïse, lui, semble plutôt leur dire qu'il s'agit d'une mission d'exploration pour voir si le pays ne serait pas intéressant à conquérir. Hein, les versets 17 et 20. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand, en petit ou en grand nombre, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, etc., etc. Le message de Dieu, pour ma part, je le trouve un peu édulcoré ou noyé dans ces paroles de Moïse. Alors rassurez-vous, je n'ai personnellement aucun contentieux à régler avec Moïse. Je pense de son côté c'est pareil, il n'en a aucun envers moi. En tout cas, il m'a fait part d'aucun grief. Mais voilà, ces paroles, que ça n'engage que moi, je trouve qu'en termes de communication, Moïse, là, n'est pas au top. Je ne sais pas pourquoi il ne répète pas exactement les paroles de Dieu. Il a sans doute ses raisons. Désir peut-être de ne pas trop les influencer. Crainte qu'ils se sentent mis devant le fait accompli et soient démotivés dans leur mission, hein, avec l'idée peut-être que ouais, à quoi ça sert qu'on y aille si tout est déjà décidé? Désir peut-être de les encourager en faisant dépendre de leur mission toute la suite des événements. On peut imaginer des tas de raisons. On sait aussi que, d'après les tout premiers chapitres de l'Exode, que Moïse n'a pas d'éloquence naturelle et qu'il est très embarrassé lorsqu'il doit prendre la parole, comme je le comprends. Parce que moi-même, au travail, lorsque je dois confier une mission que je sais difficile, je crois toujours devoir me justifier et je m'empêtre dans des explications toutes plus embarrassées les unes que les autres. Et en fait, le principe, c'est explication, oui, justification, non. Et là, c'est peut-être, selon mon point de vue, un peu le piège dans lequel Moïse est tombé. Voilà, toujours est-il que nos 12 hommes, mal briefé, selon mon point de vue, se mettent à parcourir Canaan en tout lieu, du nord au sud. Alors, dans le cas présent, l'expression dit du nord au sud, mais là, c'est plutôt du sud au nord, et d'ouest en est, et ils croisent en chemin tous les peuples qui habitent ce pays. Ils cueillent des fruits magnifiques, et ils reviennent au bout de 40 jours. Mais voilà, ceux qui sont partis avec des consignes humaines voient les choses avec des yeux humains. Ils font leur rapport. Et c'est là que les problèmes commencent à arriver. C'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel. Voici les fruits. Mais, car il y a un mais, ça ne va pas être du gâteau. Il y a des géants. Les villes sont fortifiées. Des peuples terribles partout. Si on y va, on se fait y triper. Quand on tourne ainsi les phrases, avec un mais au milieu, c'est que ce qu'on va dire après le mai est plus important que ce qu'on a dit avant. Quand il y a un mai dans un discours, l'auditoire sort de sa torpeur et dresse l'oreille. Et Jésus a abondamment utilisé cette tournure pour renverser les idées dominantes. Mais moi, je vous dis. Et à partir de là, à partir de ce mais, ils vont nous faire un Alzheimer profond. Oubliez la sortie d'Égypte. Oubliez le passage de la mer morte, la colonne de fumée, la manne dans le désert. Oubliez l'eau sortie du rocher, le feu et la fumée sur le mont Sinaï. Et tout ça, jusqu'à tenir pour rien cette terre où coule le lait et le miel, où les fruits sont magnifiques. Oubliez que Dieu est avec nous et que c'est lui qui a vaincu les armées puissantes de Pharaon. Mais, car là aussi il y a un mais, il y a un élément encourageant dans ces lignes, Caleb et Josué. Eux ont reçu de Moïse les mêmes consignes que les autres. Ils auraient pu être formatés de la même manière, mais non. Non, eux se sont placés dans la perspective divine et ils ont accompli leur mission en cherchant à la voir avec les yeux de Dieu. Ils ont vu les mêmes choses que les autres, le lait, le miel, et ils ont cru, les fruits, et ils ont cru que Dieu les leur donnait. Ils ont vu les géants, les villes fortifiées, les factions terribles qui peuplaient le pays de Canaan, et ils ont cru que Dieu les en délivrerait. C'est certain que ce que nous entendons peut nous influencer, voire nous manipuler. Cependant, Caleb et Josué sont la preuve que nous conservons notre libre arbitre et qu'une certaine distance peut et doit être prise par rapport à ce qu'on entend, comme le faisaient les Juifs de Béret, qui sondaient dans les Écritures ce que les chrétiens leur annonçaient pour vérifier si c'était conforme aux Écritures. Si Moïse, selon mon interprétation, a mal orienté les 12 espions, deux, cependant, ont su revenir dans le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas nous décharger de notre responsabilité de sonder ce qui est vrai, juste et bon. J'ai été hospitalisé une fois, j'avais un problème, pas faire les détails, mais pour maladie de peau un petit peu difficile à diagnostiquer. Et le professeur est passé pour sa visite du matin, suivi par tous ses étudiants. Et devant un cas un peu bizarre, il leur a dit ceci. Quand vous voyez un nouveau patient et qu'un médecin vous envoie un nouveau patient et puis qu'il vous demande votre avis, ne lisez pas la lettre du médecin. Examinez le patient, faites-vous votre avis et après seulement, vous lirez la lettre du médecin qui vous l'envoie, parce qu'une fois que le cerveau est ainsi fait, la nature humaine est ainsi faite, qu'une fois qu'il est parti dans une direction, il est très difficile de prendre de la distance et quand on est enfermé dans un schéma, de ressortir de ce schéma. Et j'ai trouvé que c'était une parole très sage que j'utilise régulièrement dans mon travail. Ça me semble être quelque chose de tout à fait juste. Alors, voilà, c'est difficile de sortir d'un schéma dans lequel on a été configuré. Revenons au frère aîné du fils prodigue. Nous l'avons dit, le serviteur avait sans doute ses raisons de présenter les choses comme il l'a fait, sans qu'a priori on puisse pour autant lui prêter des intentions malveillantes, mais voilà, c'est comme ça. Le fait est là, la parole vient d'être prononcée, le serviteur est retourné à sa tâche, et le frère aîné se retrouve seul avec cette parole qu'il trouble. De quels moyens dispose-t-il pour y faire face ? Là, évidemment, va parler sa personnalité. Si c'est quelqu'un de posé ou quelqu'un d'impulsif, il ne réagira pas de la même manière. Si c'est quelqu'un d'expressif ou renfermé, il ne réagira pas de la même manière. Mais il dispose ou devrait disposer d'un moyen imbattable, la connaissance de son père. Il sait ou devrait savoir que l'image du père qui ressort de cette parole ne correspond pas à la réalité. Il devrait savoir que son père n'aurait jamais dit les choses en ces termes. Il devrait se dire que le serviteur a sans doute mal compris ou qu'il est débordé et pense à autre chose, ou on a évoqué toutes les hypothèses, mais qu'il n'est pas possible que ses paroles soient le reflet exact de la pensée du Père. Les problèmes de communication entachent tous les rapports humains, celui qui parle comme celui qui entend. Et on ne peut quand même pas accuser le Père d'avoir mal communiqué à ses serviteurs. Le Père, c'est ici l'image du Dieu parfait. On ne peut évidemment pas accuser Jésus, fils de Dieu, d'avoir mal communiqué à ses contemporains. Et pourtant, il a été lui-même en proie à tant d'incompréhension de leur part. Si à l'issue de ce message, vous ressortiez avec l'idée que la communication est chose tellement ardue qu'il vaut mieux se taire, j'aurais raté mon but. Communiquons entre nous, autant que nous le pouvons, et avec tous les moyens à notre disposition. Les chrétiens persécutés qui vivent dans l'isolement connaissent la valeur de la communication entre frères. Nous lisions cette semaine au Conseil, Proverbe 15-22, « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Si vous reteniez de ce message qu'il faut absolument améliorer notre communication en faisant des efforts de toutes sortes pour ne laisser place à aucun malentendu, je n'aurais fait qu'effleurer le but. Les problèmes de communication sont inhérents à la condition humaine et Jésus lui-même n'a pas suscité l'adhésion de tous à ce qu'il a dit. Je ne pense pas que le téléphone portable, Facebook, SMS, mail n'auraient changé quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est lui et le contenu de son discours qui n'ont pas été acceptés. Veillez à notre communication, oui, bien sûr, mais ça n'aplanit pas toutes les difficultés et surtout, ça ne décharge pas l'auditeur de sa responsabilité de discerner ce qui est bon à retenir et de ce qui doit être jeté. Alors, si vous le voulez, plaçons un « mais » ici pour changer la vision des choses. Mais il n'a pas voulu mal agir. Mais j'ai mal dû comprendre. Mais tu as dû mal comprendre. Mais il a dû mal comprendre. Conjugaison, ça va, ça. On ne va pas la terminer, on va passer à autre chose. Mais je ne vois pas toute la situation. Mais il ne voit pas la situation sous le même angle. Mais ça ne correspond pas à ce qu'il est habituellement. Ou ça correspond encore un peu à ce qu'il est habituellement, mais il a fait de réels progrès. Mais il est fatigué. Alors là, liste infinie. En tant qu'Église, nous essayons, depuis plusieurs mois, de discerner la volonté de Dieu concernant l'avenir. Et on peut le dire, c'est un temps difficile, avec des enjeux importants. Déjà, sur le plan de la communication, c'est un défi. Si on faisait, je propose un petit sondage comme ça, qu'on pourrait faire en 5 points, à cocher, chacun mettrait en face de chaque case ce qui lui correspond le mieux, je vous propose les 5 points. Je trouve que ça va dans le bon sens, je trouve que ça va dans le mauvais sens, l'action qu'on mène, hein, je parle, hein. Je trouve que ça va dans le mauvais sens, je trouve que ça ne va que dans un seul sens, je trouve que ça va dans tous les sens, je trouve que ça ne va dans aucun sens. Je suis sûr que les 5 points, on trouverait des qui seraient cochés de manière représentative. Vive la diversité. Pour autant, y a-t-il parmi nous un Moïse que Dieu a chargé de nous révéler où se trouve la terre promise ? J'ai eu peur que quelqu'un lève la main. Quand bien même ça serait le cas, et quand bien même il nous communiquerait parfaitement les intentions de Dieu, comment le traiterions-nous ? Dieu est souverain quant au temps et aux moyens qu'il utilisera pour nous communiquer son plan. Dieu est souverain. Mais ce qui est vraiment, vraiment important aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est ça qui est important aujourd'hui, sommes-nous des Caleb et Josué, prêts à entrer dans le plan de Dieu à l'instant où nous y sommes appelés ? Caleb et Josué ont été remarquables sur trois points. On connaît bien les deux premiers. Premier point, ils se sont projetés dans le plan de Dieu, on l'a dit tout à l'heure. Non formatés, ils ont su se défaire du schéma pour entrer dans le plan de Dieu. Deuxième point, ils ont été courageux. Malgré leur jeunesse, hein, c'est ce qui est dit, ils se sont insurgés contre le mauvais rapport fait par les 10 autres et la mauvaise décision de l'Assemblée. Mais le troisième point qu'on réalise plus difficilement, c'est que 40 ans durant, ils ont assumé avec les autres, solidairement, la mauvaise décision et marché dans le désert avec les autres, vivre des épisodes tragiques avec les autres, alors qu'eux étaient dans le vrai. Quand le moment sera venu, on ne peut que prier que le Seigneur nous préserve d'une mauvaise décision. Hein? Je crois qu'on peut prier pour ça. Mais, et ce sera mon dernier mais, aujourd'hui, notre meilleure garantie après la protection de Dieu est que nous disposions d'une centaine de Caleb et Josué. Amen.